Eh bien, ça y est, la rénovation du droit du travail est lancée. Le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre du Travail Muriel Pénicaud ont dévoilé hier, mardi 6, la lettre de cadrage concernant les ordonnances visant à réformer le Code du travail. Alors, faut-il vraiment réformer ce droit du travail pour, entre guillemets, libérer les énergies? C'est le vocable en vigueur. Pourquoi le droit du travail est-il si important? On parle souvent d'un combat central. En quoi ce combat est-il central? Et que nous préparent, bien sûr, les ordonnances Macron? Voilà, ce sera le thème de notre émission d'aujourd'hui. Une émission donc en partenariat avec l'association pour une constituante. La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une république bien démocratique.
www.pouruneconstituante.fr.
Voilà, donc une émission avec l'association Pour une Constituante sur la rénovation du droit du travail. Bonjour Christophe Rameau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc vous êtes maître de conférence à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, spécialiste de la protection sociale et de l'économie du travail. On peut vous présenter comme ça?
Oui, et membre des économistes atterrés.
Et membre des économistes atterrés. Et auteur de, si je ne me trompe pas, L'État social pour sortir du chaos néolibéral en 2012.
Oui.
Aux éditions Fayard, Mille et une nuits. Alors nous sommes autour de la table avec toute notre équipe. Bonjour Antonin.
Salut Michel.
Bonjour Jean.
Bonjour.
Bonjour Paul.
Bonjour.
Et bonjour Clément, voilà. chroniqueur, économiste, doctorant, éminent spécialiste, donc qui vont interroger Christophe Rameau sur la question de la réforme du droit au travail. Alors au sommaire, qu'est-ce que la législation par ordonnance? Qu'attendre de ces ordonnances sur le droit du travail? Que faire en plus de la loi El Khomri? Que faire que ne faisait pas cette loi? Et quelles sont les alternatives? Peut-être quand même, on en parlera en fin d'émission, les mobilisations, le rapport de force. Alors on va peut-être commencer par déjà un petit rappel, parce que cette réforme, la loi du travail, elle arrive après déjà une réforme qui datait d'il n'y a pas si longtemps, donc la loi El Khomri. Alors Paul, tu nous as préparé peut-être une petite synthèse déjà de ce que cette fameuse loi El Khomri, elle a déjà mis en place.
Alors du coup, un petit rappel de la loi El Khomri ou loi travail qui a donc été votée adoptée en août dernier, en août 2016, et qui avait été dévoilée dans sa première version en février. Donc cette loi qui s'appelait donc qu'on a fait surnommer loi travail, c'est encore une expression qui désigne un peu le contraire de ce que ça défend, c'est un peu comme le ministère de la paix en 1984. elle était initialement nommée projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections. Donc les libertés, on va voir qu'elles sont plutôt du côté de l'employeur, et les nouvelles protections, en gros, c'est des nouvelles protections plus faibles pour remplacer les anciennes. Donc le contenu, cette loi modifie le droit du travail concernant notamment le temps de travail et les licenciements. Sur le temps de travail, en gros, avant la loi, on avait une hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'on avait la loi qui donnait des droits aux salariés. Un accord de branche pouvait instaurer des droits supplémentaires, et un accord d'entreprise pouvait encore proposer quelque chose de mieux, mais en aucun cas quelque chose de moins bien que ce qui était dans l'accord de branche ou dans la loi. Avec la loi El Khomri, la loi instaure la primauté de l'accord d'entreprise, c'est-à-dire que si les syndicats et les patrons dans une entreprise s'accordent sur des conditions moins bonnes que l'accord de branche en termes d'heures supplémentaires ou de durée légale du travail, eh bien ce sont ces conditions qui s'appliquent. Donc par exemple, en termes de durée de temps de travail, dans une entreprise, on peut instaurer une semaine de travail allant jusqu'à 60 heures dans la limite d'une moyenne maximum de 44 heures sur 12 semaines. Pareil pour la majoration des heures supplémentaires, celle-ci peut être réduite par rapport à ce qui est prévu par défaut dans la loi ou dans les accords de branche. On a également des accords collectifs temporaires. Donc là, normalement, ça veut dire qu'on va moduler le temps de travail et les conditions de travail de manière temporaire jusqu'à la loi travail. C'était réservé à des entreprises en difficulté, où en gros, les gens allaient accepter des conditions plus faibles pour sauvegarder l'entreprise. Maintenant, c'est étendu à des conditions où une entreprise veut développer l'emploi, donc par exemple, conquérir un marché nouveau. Et donc ça permet dans bien davantage de cas, effectivement, de détériorer les conditions de travail. Et ça peut être mis en place, même si les syndicats majoritaires ne déclenchent pas l'accord, ça peut être aussi déclenché par un référendum qui serait autorisé par un syndicat minoritaire qui représenterait au moins 30% des salariés. Et donc le troisième aspect sur lequel la loi El Khomri agissait, c'était de faciliter les licenciements, notamment les licenciements économiques, en élargissant les conditions de mise en place du licenciement économique. Donc en gros, c'est quand l'entreprise est en difficulté, elle peut licencier, et là, les conditions qui déterminent cette situation de difficulté économique sont élargies. Et notamment, un salarié qui refuserait... le licenciement est aussi facilité, puisque un salarié qui refuserait un accord de modulation du temps de travail, ou des salaires, peut être licencié également pour cause réelle et sérieuse. Donc on voit que cette loi, on va dire, flexibilise dans le terme officiel, ou détériore le droit en termes de temps de travail, d'heures supplémentaires et de licenciement. Et les nouveaux droits qui sont censés être là pour compenser un peu, bon, c'est pas grand-chose. On a notamment le compte personnel d'activité qui permet à chaque salarié de conserver ses droits de formation tout au long de sa carrière. Alors cette loi avait connu une première version donc en février 2017 qui était pire que celle qui a été promulguée par le 49.3 en août 2016. Mais il y a eu donc les protestations, le mouvement social, de fortes manifestations, les protestations des frondeurs, ce qui fait que c'est une version remaniée qui a été adoptée finalement. Notamment, au départ, la loi incluait le plafonnement des indemnités en cas de licenciement qui ont été retirées du projet final. Mais au final, comme on va le voir, il y a une super loi Travail 2 qui devrait nous attendre si les législatives consacrent Macron. Mais ça, on en parlera sûrement plus tard.
on va y venir juste après, mais avant peut-être Christophe Rameau. Donc comment vous l'avez vécu, cette première loi El Khomri, quelle analyse vous en faites, en quoi est-ce vraiment grave, cette question de l'inversion de la hiérarchie des normes, par exemple?
C'est vraiment grave. D'abord, pour cette loi comme pour celle que nous prépare Macron, ce qui me paraît important, c'est vraiment ce sur quoi insiste un gouvernement. Voilà. Et là, on a un chômage de masse très important en France comme dans tant d'autres pays européens. Et le point de vue keynésien qui est le mien consiste à dire que dans ces périodes-là, ce qui est très important, c'est quoi? C'est de domestiquer la finance, remettre en cause la mondialisation libérale, mettre en place des plans de relance de façon à soutenir l'activité. Il y a plein de besoins sociaux insatisfaits, notamment des besoins en matière d'éducation, de santé, des besoins écologiques. Donc les besoins ne manquent pas, la main-d'œuvre ne manque pas. Voilà. Et là, au contraire, on met l'accent sur le fait que, ça serait le code du travail qui serait responsable du chômage. C'est le discours vraiment dogmatique, libéral, qui existe depuis 30 ans. Et ça fait 30 ans qu'on a des réformes libérales du marché du travail en France. L'OCDE, on peut s'amuser à essayer de comptabiliser, alors c'est pas facile parce que qu'est-ce qu'on met dedans, etc., mais à comptabiliser le nombre de réformes du marché du travail qu'on a eu en France, comme en Italie, comme en Grèce, comme en Espagne, comme en Allemagne, depuis le début des années 80. Bon, on arrive à une trentaine de réformes de ce type, qui à chaque fois nous dit, oui, il faut flexibiliser. Et c'est ce qui va permettre aux entreprises de cesser d'avoir peur d'embaucher. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Bon, donc voilà, moi c'est ça d'abord le et donc pour le coup, on remet en cause le cœur même du droit du travail, qui est effectivement le principe de faveur que vous avez évoqué, hein, c'est-à-dire l'idée que voilà, il y a la loi qui donne un socle minimal, un socle à respecter, qui est pas minimum à respecter, mais qui est pas forcément minimal. Hein, ça peut être 5 semaines de congés payés, ça n'existe pas dans tous les pays du monde. Ça peut être 35 heures, etc. Voilà. Donc on a un socle à respecter, et ensuite les règles de niveau inférieur, comme ça a été expliqué tout à l'heure, ne sont valables que si elles apportent un plus pour le salarié, et ça permet à la fois du progrès social, et c'est sain pour les entreprises, hein, parce que peut-être on y reviendra, mais ce que j'ai envie de souligner, c'est que ce type de loi, en fait, ça accable les entreprises. Pourquoi? Parce que ça laisse entendre que ce sont les entreprises qui créent de l'emploi. Or, en fait, c'est pas au niveau macroéconomique. Or, en fait, c'est pas les entreprises qui. Ce qui détermine le niveau de l'emploi des entreprises, c'est une entreprise, elle embauche et elle veut produire. Et elle va produire à quel niveau? En fonction de son niveau de la demande. Et ça, le niveau de la demande globale, c'est le gouvernement qui en est responsable. Donc, en fait, avec ce type de loi, les gouvernements se déchargent de leurs responsabilités dans le pilotage macroéconomique. En disant, ah bien non, en se contentant de flexibiliser, on va permettre aux entreprises d'embaucher. Le problème, c'est qu'on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. D'accord? Si une entreprise ne veut pas embaucher, vous pouvez toujours flexibiliser les règles du droit du travail. Ça ne fonctionnera pas. Et on accable doublement les entreprises. Parce que ce faisant, on favorise le patronat le plus rétrograde, bien entendu. Celui qui va aller dans le sens du moins-disant social. Et donc, on véhicule une conception de l'entreprise qui est aux antipodes d'une conception, non seulement progressiste, mais si je puis dire efficace de l'entreprise, qui est l'idée qu'une entreprise fonctionne bien dès lors qu'on s'y sent bien traité. Voilà. Ce qui fait la force d'une entreprise, y compris de la productivité, de l'innovation, donc de la capacité, y compris à conquérir des marchés à long terme, c'est un collectif de travail. Et là, on favorise, au contraire, on casse la logique collective du travail. Et donc, ça joue, y compris contre l'entreprise. On est bien dans la logique libérale, qui est l'idée, en fait, ce qui est important, c'est la finance, c'est le marché, c'est pas l'entreprise comme collectif.
Moi, j'aurais une question, juste dans les règles, peut-être aussi pour rappeler à tous les auditeurs qui sont peut-être pas toujours à l'aise avec ce que c'est une politique keynésienne, mais dans le contexte qu'on a aujourd'hui avec les lois françaises et les règles européennes, quels sont les leviers qu'aurait l'État pour faire une politique de demande? Ou quelles seraient les politiques de demande qu'on pourrait lancer en tant que gouvernement français?
C'est pas le cœur du sujet aujourd'hui, mais il y en a plein. Un nouveau gouvernement... sait-on jamais, le résultat législatif n'est pas tombé, mais imaginons un gouvernement véritablement orienté dans le sens du progrès social. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit, ce gouvernement? Il dit aujourd'hui la zone euro souffre d'un problème énorme de demande. On a 3% d'excédent commercial vis-à-vis du reste du monde, c'est pire que la Chine. Alors il y a en particulier l'Allemagne qui a 8% de son PIB en excédent commercial. C'est pas possible, l'Europe peut pas continuer ainsi, l'euro ne peut pas continuer ainsi. Donc le gouvernement français vous propose quoi? Il propose à tous les pays européens un vaste plan de relance, hausse des salaires, dans tous les pays européens, en moyenne de 10%, et plus importante dans les pays qui sont en excédent commercial. D'accord? Hausse des dépenses publiques, de façon à relancer l'activité, donc de l'investissement public, notamment dans tout ce qui est les domaines écologiques, hausse des dépenses publiques, des dépenses sociales, notamment en direction des pauvres ou des catégories populaires. Les besoins ne montent pas.
Hausse de la dette.
Hausse de la dette, du coup, aussi.
Hausse provisoire de la dette qui permettra, grâce à la relance, qui permettra ensuite de la réduire. Et si on prend cette politique, aujourd'hui, aujourd'hui, on a tous les pays d'Europe du Sud qui nous suivent. D'accord? Il y a ce débat-là qui existe en Allemagne. Hein, c'est-à-dire qu'on se donne les moyens d'avoir un véritable plan de reconstruction à l'échelle y compris de l'Europe. Voilà, on change de politique, on change de braquet, on change d'orientation de façon à renouer avec une perspective de progrès, de création d'emplois. Donc voilà, il y a vraiment la possibilité, là, compte tenu du contexte européen, de faire cela. Le paradoxe, vous évoquez le problème de la dette, mais enfin, depuis 10 ans quand même, c'est... Les États-Unis nous donnent des leçons keynésiennes. Il faut quand même qu'on soit tombé bien bas en Europe. D'accord? Les États-Unis n'ont pas hésité à pousser leur déficit public jusqu'à 13 points de leur PIB. On est loin de la règle des 3%. Et leur dette publique à plus de 100% du PIB, sans parler du Japon, qui a 240%. Et pourtant, le Japon n'est pas en faillite. Bon, donc, voilà. Donc, on nous, Voilà, enfin, on s'éloigne là du
sujet. Non, mais c'est... Si, on est dans le sujet. Alors, Clément, tu voulais réagir par rapport à ça?
Oui, je voulais juste revenir sur les accords de branche et les accords d'entreprise. Il faut savoir qu'historiquement, le patronat a préféré pendant très longtemps, les accords de branche. Donc, c'est que depuis les années 80 qu'il y a un appel à décentraliser la négociation, donc à limiter l'importance des accords de branche et à accentuer l'importance des accords d'entreprise. Et donc ça, c'est important parce qu'avant les années 80, finalement, on produisait pas si mal que ça. Donc les accords de branche, dire qu'ils limitent la production, dire qu'ils limitent la capacité du patronat à organiser la chose, c'est pas forcément vrai. Et donc pourquoi est-ce que le patronat, depuis les années 80, milieu des années 80, cherche justement à accentuer l'importance des accords d'entreprise, donc à ce qu'on appelle délocaliser la négociation. Donc ça s'explique par le fait qu'il comprend bien ses intérêts. L'entreprise, il la voit de plus en plus comme le lieu le plus pertinent de la régulation sociale. Pourquoi ? Parce que c'est là où les compromis peuvent avoir lieu à son avantage, beaucoup plus qu'au niveau de la branche. Donc c'est là où c'est plus facile à nouer ces compromis entre les représentants des salariés et la direction. Et ça, c'est issu de l'échec des négociations interprofessionnelles des années 80. Donc je vais juste remettre ça un peu dans une perspective historique. C'est important parce qu'on nous dit de plus en plus que la négociation collective, la négociation au niveau du pays interprofessionnel, la négociation au niveau de la branche, c'est un problème. Finalement, c'était pas un problème avant les années 80 et le patronat appelait à cette négociation au niveau de la branche.
Oui, donc c'est surtout le rapport c'est de ça. Force est plus Exactement. Favorable au patronat au niveau de l'entreprise. Est-ce que Christophe Rameau, vous êtes d'accord avec ça et pourquoi finalement?
Alors avec ce souci-là, si vous voulez, c'est-à-dire que le droit du travail, il faut savoir que c'est un ovni pour les juristes, le droit du travail. Hein. Le droit du travail, c'est un droit privé. C'est-à-dire que c'est un droit qui régit des relations entre les employeurs et les salariés. C'est pas du droit public. Bon. Et pourquoi c'est un ovni pour les juristes? Parce que, historiquement, le soleil du droit privé, c'est le droit civil. C'est-à-dire que c'est l'idée que les parties sont sur un pied d'égalité. Elles sont habilitées à signer des contrats, et puis voilà. Bon. Eh bien, le droit du travail qui est né à la fin du 19e, il dit exactement l'inverse. Il part du principe que, en fait, dans la relation entre un salarié et un employeur, il y a une inégalité terrible. Voilà. En faveur de l'employeur. Et donc, le droit du travail, c'est un droit totalement asymétrique. C'est un droit qui est conçu pour donner des droits aux salariés contre le patron pour recréer, justement, de l'égalité. D'où le principe de faveur. Bon. Et alors, mais c'est aussi devenu, ce faisant, la loi de la profession. Au bénéfice des entreprises.